C'est parti. Et puis, ben, je vais te poser la première question de ce long questionnaire. C'est as-tu été ou es-tu encore un joueur de badminton? Puis, si oui, depuis combien d'années?
Oui, alors je suis plus aujourd'hui joueur de badminton, mais je l'ai été une bonne douzaine d'années depuis 2004, et j'ai dû arrêter pour des problèmes de santé parce que le badminton, pour ceux qui jouent, savent combien ça peut solliciter les articulations, et voilà, j'ai dû arrêter l'année dernière pour ces raisons-là. J'y ai pris beaucoup, beaucoup de plaisir et mon fils, qui m'a amené au badminton, continue à jouer, lui.
C'est ton fils qui t'a amené au badminton?
Ouais, c'est ça.
Ah, cool. Non, c'est
Ouais.
l'inverse. C'est le père qui dit à son fils, tiens, regarde, tu devrais essayer ça. Là, c'est l'inverse.
C'était une grande volonté pour moi parce que j'avais découvert le badminton dans le temps, en Nouvelle-Zélande. Quand j'étais adolescent, et j'ai toujours voulu jouer, sauf que l'occasion s'est pas présentée, j'avais pas de club à portée de la main, et le fait que mon fils commence le badminton, ça m'a boosté, et ça m'a fait très plaisir,
Bah ouais.
évidemment, du même coup.
Parce que t'as pu jouer avec lui, j'imagine, peut-être.
Ouais. Pas très longtemps, parce qu'il est devenu bien meilleur que moi.
Ok. Mais vous peut-être vous jouez en double, non? Ou vous
Ah non, non,
profitez?
il joue pas avec son père, non,
Ah
non,
bon,
non,
bah
non,
ouais,
je suis
non,
pas
ouais.
assez bon. Quand on est adolescent, hein, bon, il a commencé à 12 ans, il
Ouais,
était
c'est ça.
rapidement champion de Calédonie, ici c'est un petit monde, donc quand on progresse vite, on est vite champion, hein,
Ouais, ben,
on est
ça.
champion du petit monde de Calédonie.
Y a beaucoup de joueurs en Calédonie.
Entre 400 et 500 joueurs
Non, quand même. Ouais.
chaque année, oui. C'est pas mal, mais disons que c'est un sport confidentiel ici parce que tout est axé sur le foot, le football est roi ici, hein. Tout l'argent est distribué pour des sports comme le football et les sports co. Le golf, parce qu'il y a beaucoup d'argent dans le golf, etc. Enfin bon. Et peu dans le badminton, entre autres.
Ouais, ben je te dirais que le Québec, c'est un peu pareil. Tu sais, c'est le sport, c'est le hockey sur glace. Et c'est vrai que beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent partent vers le hockey. Et puis après, bon, t'as les sports nord-américains, là, tu sais, le baseball. Évidemment, beaucoup de golf aussi. Le football américain. Le basket. Enfin, tous ces sports-là sont quand même très représentés. Le soccer, donc du coup. Le football européen, le soccer, énormément. Puis ben c'est ça, le badminton, il est un petit peu à la traîne. Donc on va essayer de, on va tout faire pour essayer de développer ça, mais bon. Après, plus spécifiquement, donc, quand as-tu décidé de te lancer dans l'arbitrage? C'est quoi qui t'a motivé à te lancer dans l'arbitrage?
Alors, l'arbitrage c'était un challenge parce que c'est pas du tout évident. Bon, je suis quand même pas mal attiré par le bénévolat, etc. Je suis rentré dans le bureau du club, etc. J'aime bien le mouvement et apprendre aussi beaucoup, si bien que après un peu d'insistance de la part de notre ligue, j'ai accepté de passer un degré d'arbitrage parce qu'il leur fallait un quota, un nombre de volontaires pour pouvoir déclencher une formation. On n'est pas nombreux, donc tu imagines
Ah oui,
que
ah oui.
combien ça peut être difficile de motiver une demi-douzaine de personnes au niveau de l'arbitrage, sachant qu'on arbitrait comme ça, mais enfin, sur le bord du terrain, j'allais bien arbitrer des matchs. Et donc j'ai suivi cette formation qui m'a beaucoup plu, qui était couplée avec une formation de juge arbitre, donc arbitre en chef,
Ouais.
et puis également d'organisateur de compétition. Donc tout ça nous permettait d'être un petit peu plus autonome au niveau de la Nouvelle-Calédonie et puis de faire les choses en règle. Et j'y ai pris goût. Bon, au niveau international, évidemment, c'était assez limité dans les premières années, parce que ça date de 2007, hein, l'information. Et il a fallu attendre 2010 pour que je bouge un petit peu, hein, de la Nouvelle-Calédonie à l'insistance de la Ligue et sous l'impulsion, évidemment, à la demande de l'Oceania Badminton, qui est la confédération la plus proche de nous,
Ok,
hein.
bah oui.
Malheureusement, du fait de l'éloignement, la France, la métropole, nous accompagne pas trop, un petit peu plus ces dernières années, mais enfin, pas beaucoup au départ. Et donc, l'Oceania Badminton a proposé d'aller sur des championnats d'Océanie. Ils avaient un peu de sous de la BWF, j'imagine, à l'époque, pour nous aider à partir. Et ils nous ont invités au championnat d'Océanie, au sud de la Nouvelle-Zélande. Et c'est comme ça que j'ai mis le doigt dans l'engrenage. Et vraiment, c'est un doigt dans l'engrenage que j'ai mis parce que c'était tout de suite quelque chose qui m'a attiré, mais et ça a été extraordinaire, quoi. J'ai adoré mon expérience. J'adore apprendre, donc. J'ai eu beaucoup de conseils avisés, des gens qui m'entouraient. J'ai découvert la famille des arbitres, évidemment. Lorsqu'on est sur un tournoi, on est dans une petite famille. On est entre 10 et 25 arbitres, dans un tournoi. Et on est très souvent, la plupart du temps, tous soudés. Pour s'entraider et pour se donner des conseils si c'est nécessaire. Et donc j'ai eu beaucoup d'aide et ça m'a donné vraiment envie de recommencer. Et j'en suis alors j'ai fait un petit compte juste pour rigoler parce que je l'avais jamais fait jusqu'à maintenant. Je suis à 1000 matchs internationaux.
Dieu, c'est beaucoup.
Ouais. Depuis 10 ans. Que bon, cette année, enfin l'année dernière, en 2020, on n'a pas beaucoup bougé, hein. J'étais invité à des tournois, mais j'ai pas pu m'y rendre. De toute façon, les tournois ont été
C'est ça.
repoussés et
Ouais.
annulés ensuite. Mais j'en suis arrivé à 1000 matchs sur 47 tournois. C'est beaucoup, beaucoup d'opportunités qui m'ont été offertes. Et vraiment, j'en suis heureux.
Ah ouais,
J'en
puis
suis
plus t'en
vraiment heureux.
fais, j'imagine, plus on te demande. T'en
Oui,
fais.
plus tu connais du monde, voilà.
C'est ça.
J'ai rencontré Jean-Yves Quatra, j'ai
Ouais.
rencontré Fabio qui va parler aussi, qui va discuter avec toi, et qui parle très bien français.
Bah oui.
Et puis des dizaines d'autres, parce que bon. On se croise des fois plusieurs fois. Hein. Bon, les arbitres australiens, je les connais tous. Les arbitres néo-zélandais aussi. Et on se voit quasiment à chaque fois. Mais lorsqu'on va évidemment à l'Open de Corée, on rencontre forcément quelques arbitres des pays à droite à gauche
Ouais.
avec qui on échange et qu'on a déjà croisé 2 ans auparavant.
Ouais, c'est ça, de revoir des gens que t'as pas vus depuis un certain temps, de pouvoir rediscuter avec eux. Des Français peut-être un petit peu?
Oui, bien sûr. Wolfgang, Wolfie,
Ok.
je l'ai croisé plusieurs fois. C'est un pote maintenant et bon, on se voit plus trop ces dernières années, mais enfin bon. Et puis quelques arbitres, oui.
Jean-Louis Kellefner, peut-être?
Alors Jean-Louis, c'est lui. Alors puisque tu cites son nom, c'est lui qui nous avait fait la formation
Ok.
d'arbitre. Alors c'est extraordinaire parce que c'est Jean-Louis que j'ai croisé en tant que juge arbitre, donc arbitre en chef,
Ouais.
il y a quelques années, voilà, que j'ai pas croisé en tant qu'arbitre.
Mais c'est marrant parce que bon, il a fait des formations donc loin. Puis il en a fait des très proches, tu sais qu'il vient de la région Alsace. Et moi, quand j'étais en France, je suis resté en France, ben j'étais en France jusqu'en 2006, c'est en 2006 que je suis venu au Québec. Mais je suis passé moi national en 2000, je pense que c'était 2000 ou un petit peu avant. Et donc les années d'avant, de 92 à 2000, c'est Jean-Louis qui faisait nos formations d'arbitre en chef et d'arbitre de partie. Alors il les faisait donc en Haute-Marne, enfin d'où je suis originaire, puis il les faisait aussi en Franche-Comté, là où je suis allé. Et il est allé à Nouméa aussi faire des. Mais Jean-Louis, c'était un peu notre mentor. Là, dès qu'on avait une formation à faire, dès qu'on avait des questions à poser, c'était Jean-Louis. Et toujours présent, toujours là, toujours vraiment quelqu'un de bien. Du Québec aussi, on a Yves. Comment s'appelle-t-il?
Yves Cottès,
Yves Côté.
Côté.
Ouais. On a Yves Côté aussi, oui, qui venait, je pense, du Manitoba ou de Saskatchewan, puis qui maintenant est en retraite et qui vit au Québec. Mais ouais, on a quelques officiels comme ça qui gravitent. Donc bah là, la question suivante, c'est depuis combien d'années est officiel? Donc 10 ans.
Ben, un petit peu plus, oui, alors officiel depuis 2007. Alors
Ouais.
au début, comme je n'ai pas cité, mais c'était quelques... En fait, la Nouvelle-Calédonie essayait de se lancer dans les tournois internationaux, donc, avec une certaine autonomie au niveau des officiels, parce qu'auparavant, on faisait appel exclusivement aux officiels à quelques officiels d'Australie ou de Nouvelle-Zélande. Se déplacer assez facilement, disons, pour nous aider. Mais à partir de 2007, on a voulu être un petit peu plus autonome, donc on a formé beaucoup plus d'arbitres. Et ce tournoi international qu'on organisait ici localement faisait venir un certain nombre de joueurs, pas quelques dizaines au mieux. Quelques dizaines de joueurs d'Australie, de Nouvelle-Zélande principalement. On a eu quelques pointures qui sont venues, l'équipe de France également. Et puis, ouais. Quand on a la chance d'avoir quelques bons joueurs, on est évidemment content. Donc j'ai arbitré depuis 2007, voilà, 2007, 2008, 2009 en pointillé. Et après, en 2010, d'une façon beaucoup plus intensive, hein, parce que à partir de février 2010, j'ai fait entre 4 et 7 tournois dans l'année.
Oui. Ouais, c'est du temps.
Internationaux, hein, oui. Donc c'est
Oui, ouais, mais
tous
c'est
mes
du temps.
congés, voilà,
C'est
tout,
ça.
évidemment, c'est une semaine à chaque fois. C'est plus les jours de voyage, parce que des fois il faut aller loin. Je suis allé jusqu'en Europe. Là, évidemment, j'ai couplé avec des vacances avec mes parents.
Bah ouais.
Mais c'est beaucoup de temps, beaucoup, beaucoup de temps.
Ah ouais, j'imagine, parce que bah pour évoluer, il faut garder quand même un certain rythme pour garder le niveau, j'imagine. Donc t'as pas le choix
Tout à fait.
de. Puis ça doit être coûter un petit peu d'argent, non? Parce que t'es dédommagé entre guillemets, enfin je sais pas si.
Alors, au niveau des voyages, j'ai dû payer à peu près 9 billets sur 10.
Ah quand même.
Oui. Ouais. Avec un petit peu d'aide de mon club, un petit peu d'aide de la ligue, mais pas énormément, mais c'était toujours appréciable. J'ai un métier qui me rémunère bien, donc ça va, mais n'empêche que ça coûte, oui,
Ouais, c'est
effectivement,
ça.
beaucoup d'argent et beaucoup de congés. Loin de ma famille, hein, ouais, c'est sûr. Ouais.
Mais quand tu es assigné par la Fédération internationale, moi je pensais quand même qu'ils, sans dire qu'ils te payaient le billet d'avion, mais en tout cas, tu sais, qu'ils t'aidaient à.
Alors, bon, quand on part sur les championnats du monde, bon, j'ai fait deux Sudirman Cup. Évidemment, on est invité par la BWF et dans ce cas-là, dans ce cadre-là, on est évidemment entièrement pris en charge au niveau du déplacement. Sur quelques tournois également, j'ai bénéficié d'une aide complète, mais pas beaucoup, peut-être, oui, à peu près de l'ordre de 1 sur 10, quoi.
Bon, okay.
Et,
Ah ouais,
ouais.
ouais,
Et donc,
faut.
ouais, ça représente pas grand-chose, mais Après, c'est quelques aides à droite à gauche pour m'aider à payer le billet. Et puis, sur place, on a toujours, bon, tu le sais peut-être, mais il y a toujours une petite allocation qui est donnée, qui est de l'ordre de entre 20 et 50 dollars US par jour pendant les jours du tournoi, quoi. Donc, voilà.
Ouais, le per diem. C'est comme ça qu'on appelle
Oui.
ça le per diem, hein, c'est ça?
D'accord.
Ok.
Oui, c'est bon, si quand c'est des petits tournois, évidemment, c'est peu. Et des fois, c'est rien du tout parce que voilà, ils font pas de sous. C'est un petit tournoi. On est bien content d'être là pour donner la main et puis voilà.
C'est ça, c'est ça. C'est le backup, c'est ton côté bénévole.
Oui, tout à fait.
C'est
Voilà.
ça,
Et
c'est ça.
puis on y va pour se faire plaisir aussi, voir de beaux
Exact.
matchs et c'est pour le plaisir personnel, bien sûr.
Ouais. Non, c'est bon, c'est bon. C'est quoi ton grade actuel, toi, au niveau de l'arbitrage? C'est parti.
Alors, je suis Océania certifié, donc depuis 2012.
Ok.
Voilà.
Ok. Ce qui est déjà un bon niveau.
Oui, c'est niveau continental certifié, donc on n'est pas très nombreux, mais voilà. Après, j'ai été très chaudement coaché et aidé pour arriver très rapidement à ce niveau-là, parce que en 2 ans, enfin 2010-2011, puisque j'ai passé la certification en début 2012, c'est extrêmement rapide.
Bah oui.
C'est d'ailleurs un peu rapide. Et le niveau, peut-être que je l'ai eu un petit peu plus tard.
Si t'es invité sur des compétitions, c'est que tu dois pas être si mauvais.
Oui.
Non, mais parce que l'arbitrage, c'est bah bon, il y a le côté arbitre, mais il y a le côté humain aussi, quoi. Je veux dire, si les
Ouais,
gens
c'est sûr.
tu vas comme arbitre, mais tu vas comme comme ami, comme passer des bons moments aussi là.
C'est clair que j'imagine, surtout aujourd'hui, je ne dirais jamais de mal de mes collègues, mais c'est
Ah
vrai
oui.
que il y a des fois des gens qui, si on organisait un tournoi, qu'on n'aimerait pas trop avoir, quoi.
Bah oui. Il y en
Parce
a partout.
que, bon, ouais. Les
Non.
situations cocasses, il y en a quelques-unes, oui. Mais bon, voilà, c'est comme
Voilà,
tout
tu auras peut-être
dans la vie.
l'occasion d'en parler dans une prochaine question là, qui arrive. Donc, tu es arbitre de partie. Est-ce que la fonction d'arbitre en chef ou de juge arbitre, est-ce que c'est quelque chose auquel tu avais déjà pensé, enfin, t'as déjà pensé peut-être franchir le pas ou tu le fais peut-être dans des compétitions chez toi ou
Arbitre, tu veux dire
arbitre
un
en
juge
chef?
arbitre?
Ouais, juge arbitre.
Ouais.
Est-ce que
Ah
c'est
oui.
quelque chose qui pourrait t'intéresser?
Alors, c'est un boulot que j'ai fait, hein.
Ok.
J'ai fait une dizaine de tournois en tant que arbitre en chef. Puisque, comme je te disais au départ, on a été formé par Jean-Louis à ces différents jobs. Et ici, on avait un réel besoin de faire tourner donc les gens sur les tournois, les officiels sur les tournois. Donc, il fallait être un certain nombre. Et donc, on a donné de notre temps pour ces différents jobs depuis 2007. On a à peu près une dizaine de tournois par an. Je dis que j'ai fait juge arbitre, donc arbitre en chef une dizaine de fois, peut-être plus.
Okay.
J'ai pas compté, hein, j'ai pas compté. Mais on a après, je me suis quand même pas mal orienté vers l'arbitrage, donc j'y passais beaucoup de temps et un peu moins pour les tournois, pour faire arbitre en chef
Ben,
sur
juge
les
arbitre, c'est
tournois.
ça, c'est tu peux pas faire les
Ouais.
deux là, ça devient.
Ben, c'est-à-dire que tu peux toujours prendre encore plus de temps
Ouais,
et
mais là, voilà.
ici les tournois, je parle du niveau local, hein,
Ouais,
le
ouais,
niveau
ouais.
local, c'est des tournois qui ont lieu le week-end, donc samedi, dimanche, oui, on peut toujours passer du temps pour assister
Ouais,
à
aider le club, aider
aider le club,
l'association, aider.
aider un autre club, puisque il faut que le juge arbitre soit de notre club pour la partialité, etc. Enfin, jusqu'à maintenant. Évidemment, ça m'est arrivé de faire ce job de temps en temps.
À quelques reprises.
Mais c'est pas pareil, hein. Enfin, c'est pas du tout la même sensation. Franchement, c'est vers l'arbitrage que je me suis tourné de toute façon avec grand plaisir.
Depuis toutes les années où tu arbitres, selon toi, donc dans ces 10, on va dire dans les 10 années où tu as évolué dans l'arbitrage international, selon toi, c'est quoi les principales évolutions? Comment pour toi l'arbitrage a évolué? Peut-être avec les changements de règlement, tu sais, je sais pas.
Oui, alors il y a eu un changement que je n'ai pas quasiment pas connu, hein, qui était le passage au 3x21, 3x21, 3x7 de 21 points. C'est au moment où j'ai commencé le badminton qu'on passait dans ce système-là. Donc évidemment, j'ai pas connu la période d'avant. Mais il n'y a pas eu de changement majeur. Dans les années où j'ai fait arbitre, mais quand même il y a une évolution régulière de notre job avec les règles qui se réfèrent au niveau du contrôle des joueurs, la continuité du match. On nous demande de travailler pas mal sur ces points-là, sur les aspects de présentation, énormément d'aspects de présentation qui peuvent paraître mineurs, mais qui participent dans les tournois internationaux à l'attrait du sport, comme la continuité du jeu, hein. Continuité du jeu qui est presque l'inverse du tennis, par exemple, qu'on prend toujours comme contre-exemple quand on en rigole entre nous. C'est fou, comme on nous demande d'assurer un intérêt visuel constant aux téléspectateurs ou aux spectateurs des matchs. Et puis dernièrement, bon, il y a quelques années maintenant, ça a été quand même, on a mis un petit peu de temps à se décider à ce niveau-là. C'est le comment en tant que arbitre de service, c'est le jugement du 1m15, hein, avec les accessoires qu'on a testés progressivement et qui se sont généralisés maintenant autour de cette règle de 1m15 et qui a été assez bien à notre connaissance, des arbitres, assez bien accepté par les joueurs. Dans les conditions, etc., au niveau élevé, ils ont un retour positif sur ça, parce que ça permet d'avoir évidemment une impartialité un peu meilleure. C'était ça en fait qui les gênait, ça revenait souvent. Certains laissaient passer les services et d'autres non, ça leur paraissait pas totalement impartial. Et notre job, c'est d'être impartial, tous, d'être cohérents les uns avec
C'est
les
ça.
autres, que ce soit dans un match, dans un tournoi ou dans la vie de notre d'arbitrage, hein, notre vie d'arbitre. Et cette homogénéité n'était pas respectée. La règle des 1m15 avec les deux plaquettes et les niveaux permettent d'avoir un jugement assez
Ouais, clair, net,
constant.
précis,
Ouais.
c'est bon, c'est
Ah
pas
ouais.
bon.
Ouais.
Parce que c'est sûr que nous, là, on n'a pas mis en place ce règlement-là parce qu'on n'a pas les outils. On n'a
C'est
pas
ça.
les. Donc, puis de toute façon, nous, c'est niveau provincial, là, regarde. Je comprends que c'est juste au niveau international. Mais à nous, à notre niveau, alors il y en a, c'est la taille, d'autres, c'est le nombril, d'autres, c'est la dernière côte flottante. C'est comme tu dis, c'est pas clair cette affaire-là. C'est, il peut y avoir une différence de quelques centimètres entre le nombril, la taille, la côte flottante, le ci, le ça. C'est sûr que là,
Mais oui.
c'est net, c'est précis, c'est bon,
Ça
c'est
met
pas
tout le
bon.
monde, ouais,
C'est
tout
ça.
le monde au même niveau, même si théoriquement ça doit être la dernière côte flottante. Le geste peut être extrêmement rapide,
Oui.
le geste de service, et il faut choper le moment exact où le volant est rentré dans la raquette, ou l'inverse.
Oui, ouais.
Et c'est pas évident du tout, hein. Il
Bah ouais.
faut vraiment avoir un œil très exercé et puis attentif évidemment à tout
Ouais.
ça pour arriver à être impartial. C'est pas évident du tout.
Et ça, c'est donc aujourd'hui, c'est actif dans tout, enfin, c'est la règle dans tous les tournois internationaux, hein.
Alors, à partir d'un certain niveau, oui, quand ils arrivent à avoir, comme tu disais, le matériel, hein, pour le faire.
Ouais.
C'est actif dès lors qu'ils ont assez de sous pour louer ces plaquettes, ce matériel à la BWF, qui en a un certain nombre d'exemplaires et qui les déplace de tournoi en tournoi.
Surtout que ça en prend deux, hein, un à gauche, un à droite, pour que, quand c'est le serveur à gauche, serveur à droite, ou tu transportes ton.
Non, non, non. Alors au début, on les transportait, mais ça n'a pas duré longtemps parce qu'évidemment, il fallait que les plaquettes, le trépied soit bien posé,
Ah
bien
oui.
positionné. On aurait été tout le temps, on s'est rendu compte très très vite pendant les phases de test que c'était pas possible d'avoir
Ouais, puis le
seul
déplacer, et puis
instrument. Donc il y a, bah, du coup, ils font en avoir 10 sur un tournoi, puisqu'il y a cinq
c'est ça.
terrains en général, pas la plupart des tournois, à part les gros gros tournois où il peut y avoir peut-être plus de terrains, mais il en faut 10, il faut les transporter, il faut les régler, il faut voilà, ouais, bien sûr.
Oh ouais.
Donc c'est pas tout le
Ouais,
monde
non,
qui peut
c'est
se les payer. Nous, en local, évidemment, on les a pas. Donc quand on n'en a pas, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on fait avec l'ancienne règle, hein, en fait, avec
ça.
l'autre règle,
C'est
puisque
ça.
l'ancienne règle devient l'alternative si
Oh ouais.
on n'a pas le moyen de juger les 1,15 m.
Nous, c'est pareil. Certains nous disent, ouais, pourquoi vous ne faites pas comme un international? Puis, ben parce qu'on n'est tout simplement pas équipé pour vérifier cette règle-là. Donc, ben, si on n'est pas capable de vérifier cette règle-là, ben, on revient, enfin, on revient, on garde l'ancienne règle, qui n'est pas
Exactement.
évidente, qui n'est pas facile, qui peut être interprétée selon l'arbitre. Puis en plus, nous, ben, c'est, on a quasi jamais de juge de service. Donc, c'est l'arbitre de c'est l'arbitre de partie qui est à son poteau, qui est debout, qui doit juger, donc il regarde comme ça, puis bon, ça se passe tout le temps bien. Là, les joueurs enfin, il y a très peu de joueurs qui se plaignent. Ou alors, ben, on les connaît. On connaît les joueurs qui vont se plaindre,
Bien sûr.
parce qu'on les connaît. Ceux
Oui.
qui sont toujours limites, puis qui essayent toujours de. C'est ça. Mais ok. Si, ben en fait, la question suivante, c'était dans quelle compétition as-tu déjà eu la chance d'arbitrer? En fait, bon, pendant 10 ans, puis comme tu dis, 1000 matchs arbitrés, mais si tu devais en garder qu'un seul, une compétition où vraiment tu as aimé te rendre pour arbitrer. Ben, je t'en donne deux. Allez, deux. Parce que un, ça peut peut-être être compliqué, mais deux.
Non, non, mais j'avais pensé à cette question et c'est vrai que bon, j'ai eu la chance d'être invité sur les championnats du monde par équipe de pays, la Sudirman Cup, en 2013 et en 2015. Et l'expérience de la première en 2013 qui s'est déroulée en Malaisie, à Kuala Lumpur, où j'ai été propulsé là sur un terrain, enfin Mes premières duties, c'était comme tout le monde, hein, très rapidement. Je me retrouve sur la première rencontre entre la Chine et l'Inde. Évidemment, c'est les grosses pointures que j'avais déjà, enfin des joueurs que j'avais souvent déjà croisés. Mais là, on est dans une ambiance de championnat du monde. J'ai un challenge également, parce que je passe un examen. Puis il y a une ambiance, il y a le stress, tout ça se met l'un par-dessus l'autre mais ça se passe bien, hein, ça se passe bien, mais c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Beaucoup
J'imagine
de bruit,
l'émotion, puis ouais,
ouais.
c'est
Bon ben, on met quelques minutes avant d'arrêter de trembloter.
ouais,
Une fois
j'imagine, parce que
qu'on est dans son match, bon, après, les routines reviennent, mais c'est pas évident, pas évident. Ouais.
mais c'est le côté du par équipe, toi, que tu aimes plus que le côté individuel.
Pas forcément, non, non, pas du
Non,
tout.
non, ok.
Alors, c'est vrai que l'occasion d'arbitrer par équipe, c'est pas très souvent, hein, ça revient pas souvent. Ça revient chaque année une fois au moins pour les Océania, les championnats d'Océanie, puisqu'il y a forcément des compétitions par équipe qui sont organisées cette semaine-là. Et puis là, mais c'était un autre niveau, donc évidemment, ça donne un autre éclairage,
Ah oui.
une sensation, une émotion qui est énorme, quoi, énorme.
Moi, j'aime le côté du par équipe. C'est quand j'étais national, j'ai eu l'occasion d'arbitrer l'individuel. J'ai arbitré au championnat de France senior. J'ai arbitré une partie au championnat d'Europe. Mais le par équipe, j'étais l'arbitre officiel d'une équipe de National 1. C'est ma meilleure expérience à vie. Le par équipe, là, je dis, on fait vraiment partie. Je trouve qu'on fait plus partie du jeu que de l'individuel où, bon, on a un joueur ou deux. C'est intéressant. Mais dans le par équipe, c'est ça, il y a une ambiance, il y a. Mais j'imagine les compétitions internationales, de toute façon, il y a toujours de l'ambiance, que ce soit l'individuel ou du par équipe, j'imagine. Mais moi, à mon niveau, à moi, j'adore le par équipe. J'adore. J'aimerais tellement, aller voir des compétitions de par équipe. Mais en tant qu'arbitre, c'est vraiment ça que j'aimais, moi. C'est ça qui m'a amené à l'arbitrage, puis c'est ça qui m'a fait y rester, le par équipe. Comme je dis souvent, moi, ce qui m'a fait venir à l'arbitrage, c'est parce que j'étais joueur de badminton, je n'étais pas un bon joueur, mais c'était le seul moyen que j'avais d'arriver en finale. C'est de les arbitrer, les finales. Sinon, j'arrivais jamais en finale. Donc, du coup, je me suis dit, si je veux être en finale, je ne pourrai pas y être comme joueur. Faudra que j'y sois comme arbitre. Donc, c'est ça, moi, qui m'a fait venir. Mais intéressant. Les compétitions que tu as préférées, est-ce que tu as déjà fait les JO?
Non, non,
Non,
non,
t'as
mais
pas fait les JO?
non, 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 les compétitions les plus importantes au niveau BWF, c'est, comme je t'ai dit,
Ouais.
le
Les championnats du
Sudirman
monde.
Cup. À un niveau, alors pour donner une autre expérience de match par équipe sur des compétitions importantes auxquelles j'ai pu participer en tant qu'arbitre, c'est en 2019, il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a un an et demi, sur les deuxièmes Jeux du Pacifique auxquels j'étais invité, qui se sont passés à Samoa, avec une ambiance du Pacifique, hein, avec des groupes dans l'assemblée qui commencent à danser, qui descendent sur l'aire de jeu quasiment entre deux
Okay.
matchs pour faire un spectacle rythmé des jeunes qui sont vraiment excités par le jeu. Et comme tu disais, l'ambiance par équipe fait que les spectateurs se prennent d'une façon différente au match, puisque l'enjeu est c'est l'enjeu du pays hein,
C'est clair.
dans ces cas-là. Ouais. Et y a vraiment une ambiance de feu. Ouais.
Là, un petit peu plus précisément, un match qui t'a vraiment fait triper, bah c'est ça, que t'as aimé particulièrement arbitrer, tu sais, soit par le niveau des joueurs, soit par ce que t'as préféré, mais un match particulier, là, c'est pas une compétition, mais vraiment un match.
Ben, je vais revenir toujours au match de la Sudirman Cup en 2013, mon premier match arbitré entre l'Inde
Ok.
et la Chine, qui m'a mis une pression évidemment énorme, mais aussi une sensation, une excitation
Tu t'es dit, je l'ai fait,
extraordinaire.
je suis
J'ai
passé au travail.
sorti du match, j'étais exténué, mais content, mais
Tu
heureux.
t'es dit, je l'ai fait, je suis
Ouais,
passé
je
au
l'ai fait.
travers.
Ouais, j'ai fait un match, mais je vais m'en souvenir. Je m'en souviens. Effectivement, tu vois, je m'en souviens encore aujourd'hui, même si j'en ai fait beaucoup. J'ai des matchs comme ça qui marquent. Hein.
C'est lui qui
Bon,
t'a
évidemment,
marqué,
quand
ouais.
ouais, des Lin Dan ou des Lin Chongwei, ouais, des Lin Dan ou des Lin Chongwei. C'est évidemment, c'est On est toujours content d'avoir fait un match du champion du monde ou
C'est
du
ça.
champion olympique. On rentre au pays et on monte sa feuille de match. Mais n'empêche que c'est pas les matchs les plus excitants. Des fois, ils font l'objet de petites anecdotes. Je t'en parlerai peut-être plus tard, mais c'est pas forcément les matchs les plus excitants. Voilà. Parce que, alors, pour parler pour aller jusqu'au fond de ma pensée, les matchs excitants, pour moi, ça va être plus des matchs de double, des doubles hommes, des doubles mixtes, des doubles dames, des fois à rallonge, mais qui donnent lieu à l'ambiance, des fois, parce que les échanges durent, hein, double dame, où t'as 50, 60, 80 échanges successifs avant que l'échange se termine, où les spectateurs comptent les échanges, et toi, tu essayes de te concentrer sur ton job, et t'en perds le score, parce que le temps passe, tu es là depuis 1 heure et ça s'est pas fini.
Ouais, c'est ça. Les pang ai, pang
Et
ai.
voilà. Ouais.
Les japonaises, hein, pour ça.
Ah
Et ça revient, et ça repart, et
ouais.
ça revient. Yves nous en parle souvent comme ça aussi, là, c'est. Tu penses que ça va être fini, mais non, c'est pas
Mais non,
fini.
mais non. Mais elles sont encore là et elles continuent, elles tapent dedans et elles se reposent en tapant, en dégageant
C'est ça.
et ça peut continuer longtemps. Ouais. Non,
Ouais.
enfin bon, voilà. Donc du coup, double homme, double mixte, c'est quand même plus excitant, plus rapide comme jeu, évidemment. C'est des reprises de ce match continuel. On dirait c'est des extraterrestres, hein, les joueurs de double, à avoir des réflexes pour envoyer des smashs à ça du filet. Ensuite.
Ah ouais.
C'est
Déjà quand on le voit à la
renvoyé.
télé, quand on le voit à la télé, c'est déjà impressionnant. Sur la
Ouais.
chaise, ça doit être encore plus impressionnant.
Mais quand on est sur le match, évidemment, on est complètement. On a du mal des fois à suivre les échanges. Hein. C'est tout où est le volant, quoi. Hein. C'est dingue. Alors donc un match de simple est souvent moins facile, disons moins excitant. Et
Ouais.
puis, moins. Ça
Ok.
m'attire moins.
Et s'il y avait un match que tu as arbitré et tu te dis là maintenant avec le recul, celui-là, soit parce que bah tu sais, ça peut arriver, t'as pas été bon, ou alors le match il était bon, c'est une mauvaise expérience d'arbitrage de partie. Est-ce que t'en as?
Ouais, j'en ai. Même pas trop y revenir dessus,
Non, puis c'est,
vrai.
regarde, c'est correct en même temps, là, je veux dire, c'est pas. Mais t'en as,
Bien
quoi. Il y a
sûr.
des matchs.
Il y en a où tu t'es trompé de score carrément, et c'est les joueurs qui viennent et qui te remettent les scores à plat. Et là, c'est atroce, quoi.
Tu dis bon, là, je suis où là?
Oh là là, mais je suis où? Mais qu'est-ce que j'ai fait là? Mais c'est pas possible de s'être trompé par d'une façon aussi évidente. Ouais.
Mais c'est la preuve qu'on est humain, puis que ben c'est
Oui,
ça.
et que ça peut arriver, on peut avoir un passage à vide
C'est ça.
et on ne peut pas s'endormir sur un match, ça c'est clair. Bien qu'il y en a qui ont des âges avancés en Océanie, qui
Qui dorment sur la chaise.
dorment presque sur la chaise. Non, mais sans blaguer,
Ouais.
on peut pas s'endormir, mais on peut évidemment, comme on est humain, se tromper et rater quelque chose.
Ouais. Ouais.
Arrive à tout le monde.
Ben oui. Ouais. Bon, là, la question suivante, tu as répondu, ton plus gros test d'arbitrage, donc en 2013. Je ne vais pas te demander de refaire le.
Ouais.
Alors, ben, là, c'est pareil, c'est un petit peu. Quelle est la plus belle partie que tu as eu la chance d'arbitrer? Donc, ça doit être un double, j'imagine. Une partie que tu as pris
C'est
énormément de
plein de
plaisir.
parties, voilà.
Plein de
C'est
parties.
énormément, énormément de matchs, des finales, des fois, de double dames en Nouvelle-Zélande, où on arrive à plus d'une heure de match et on fait vibrer le public. C'est énormément de parties dans un millier de matchs. On en a tellement que, ouais. Il y en a beaucoup qui ressortent, donc c'est
Okay.
pas évident.
Ok. Et s'il y en a une que tu n'as jamais arbitrée, mais que tu aimerais arbitrer, tu sais, peu importe le tournoi, le lieu, les joueurs, selon toi, ce serait quoi le match de rêve que tu aimerais arbitrer?
J'en ai pas.
T'en as pas?
C'est paradoxal.
Bon,
J'en ai
non,
pas.
mais.
J'en ai fait beaucoup. J'ai arbitré à peu près tout le monde. Disons du top 50 les années passant
Ouais.
hein. Et j'ai eu cette grande chance d'avoir pu arbitrer beaucoup beaucoup de joueurs mais évidemment chaque match est un nouveau match et toujours normalement à prendre on remet les compteurs à zéro et puis on repart mais non, j'ai pas de match idéal que j'aimerais arbitrer aujourd'hui.
Mais avec 1000 matchs arbitrés, c'est sûr que t'en as fait quand même beaucoup. Donc c'est sûr que ça fait moins rêver peut-être d'avoir des matchs.
Ceci dit, c'est pas ni match intéressant, hein. Loin de là,
Ah, oh, j'imagine.
il y a les trois quarts, c'est des matchs plats, des fois pas intéressants, qu'on a envie d'oublier. Mais non, je peut-être pas les trois quarts, mais enfin,
Oui,
c'est pas souvent des matchs excitants
ouais, bah
et qu'on
c'est
a pris beaucoup de plaisir à arbitrer. Mais on
ouais.
sait, quand on est arbitre, on se doit d'être concentré comme si c'était des champions du monde qu'on avait devant soi et si on est impartial, on applique les règles et voilà, les routines rentrent en marche et puis on fait le boulot quoi.
Ouais. Alors là, t'en parlais un petit peu tout à l'heure, mais si tu peux nous raconter une anecdote cocasse ou pas que tu as rencontrée comme arbitre.
Alors, en citant des matchs tout à l'heure, ça m'a fait repenser à quelque chose, à une histoire qui m'est arrivée. Alors, bon, un stylo qui tombe de la chaise, évidemment, et le joueur ramasse, ça peut arriver. C'est pas, c'est des choses qu'il faut pas faire normalement. Enfin, quand ça arrive, ça arrive. L'essentiel, c'est qu'on ne soit pas sous le feu des caméras
Bah
ce
oui, c'est
jour-là.
ça, à ce moment-là, tout.
Oui. Mais une histoire qui me reste, une histoire un peu assez récente, qui m'est arrivée alors que j'étais juge de service sur un gros match, parce que c'était Lindan sur le terrain. Le match commence et au premier service, j'annonce une faute de service pour Lindan. Donc là, connaissant le personnage, c'est évidemment toujours succulent quand on regarde ça après coup, mais il fait son cinéma, etc. Mais le souci, en quelque sorte, c'est qu'il n'y en a pas eu qu'une, et que, évidemment, moi, avec j'ai appliqué
La rigueur de...
les règles, la rigueur,
C'est ça.
et j'ai rien laissé passer. Le souci, c'est qu'il y en a eu deux, trois, et donc, plus ça arrivait, à chaque fois, Lindan faisait encore plus de cinéma. Il a même jeté sa raquette par terre. Enfin,
Oh.
c'est le personnage, c'est le comédien qui rentre en marche. C'était succulent, enfin, succulent. Vu de l'extérieur, évidemment, parce que moi, quand t'as un personnage comme ça, évidemment, il faut tenir
Il faut tenir ton bout
son
là,
boulot
bien le
et
service.
ouais, et puis, évidemment tenir son sérieux. Il faut pas rentrer dans ce jeu, mais il faut laisser aussi faire le envoyer le joueur vers l'arbitre de chaise,
C'est ça.
parce que c'est aussi son job de protéger le juge de service. Mais après ça c'est une histoire qui marque quoi.
C'est ça, c'est les règlements, puis tu
Non,
respectes les
on
règles.
rigole, on en rigole longtemps. Ouais.
Ok. Selon toi, quel est le joueur ou la nation la plus respectueuse des officiels? Est-ce qu'il y a des nations qui sont plus respectueuses que d'autres?
Alors.
Ou des joueurs qui sont plus respectueux, puis d'autres ou qu'on connaît comme étant
Alors,
irrespectueux ou...
c'est clair et net. J'ai fait finalement peu d'arbitrage en Europe, beaucoup dans la zone autour de la Nouvelle-Calédonie, hein, que ce soit un petit peu au Canada et à Vancouver, mais surtout en Asie, en Australie, en Nouvelle-Zélande, où j'ai arbitré chaque année. Mais c'est clair, c'est les Asiatiques qui sont beaucoup plus respectueux des règles d'une façon
Okay.
générale. Quel que soit le pays, les Asiatiques sont vraiment sortent du lot, quoi. C'est sûr, ceux qui sont à un niveau élevé, vont avoir tendance à connaître des trucs pour essayer de passer au travers de certaines règles. Donc ils vont chercher à déroger à la règle. Mais ils sont toujours respectueux de la décision de l'arbitre. Et c'est quelque chose qui revient très très vite,
Moi, on
c'est
m'avait dit
instantané, quoi.
les Japonais sont très très respectueux dans la vie d'une manière générale
Ah oui.
et sur
Mais
le terrain.
Les Thaïlandais aussi,
Ok.
même s'ils sont, ils ont des réactions des fois un petit peu plus violentes, on l'a vu en d'autres temps,
Oui, oui, oui.
mais pas spécialement envers les arbitres. Hein. Bon là, ils arrivent à se battre sur le terrain, mais quand ils ont affaire à une décision de l'arbitre, toutes ces nations, c'est des gens qui sont très respectueux des décisions d'un officiel et de l'application des règles en général. Les Japonais, c'est clair, c'est dans leur sang. mais les Thaïlandais aussi, les
OK.
Coréens aussi. Alors, comme je disais, quand un joueur arrive à un certain niveau, il peut que son comportement soit influencé par sa formation, hein, plus haut niveau, avec ses coachs, des fois internationaux, qui lui donnent des petits trucs et qui le poussent à chercher à enfreindre un maximum
Ok.
de règles, mais n'empêche que dans son âme, on sent qu'il est respectueux.
Bon, il est poussé par ses entraîneurs à transgresser.
Pense, ouais, d'une façon ou d'une
Voilà.
autre, bien sûr, oui, à gagner du temps quand il est fatigué, serviette, les chaussures, la goutte de sueur qui est tombée, allez, essuyez-moi ça, changer le volant, etc. Enfin bon, c'est des petits trucs, râler contre une décision du juge de service, etc. Enfin, c'est tout un tas un arsenal. De petites choses
Mais tout le monde le fait, j'imagine. Tout le
qui
monde le fait,
déploie
ça.
plus ou moins, oui, bien sûr. Quand
C'est ça.
on en a besoin, on le déploie, et puis voilà, quoi. Voilà.
Ouais, ils ont de l'imagination pour se
Ouais,
reposer.
toujours beaucoup d'imagination. Voilà.
toi, comme arbitre, comme arbitre de partie, c'est quoi que tu trouves le plus difficile à gérer comme arbitre de partie? Le comportement des joueurs, enfin, est-ce que c'est les joueurs? Est-ce que c'est. Quel est pour toi le. Si tu avais quelque chose à améliorer dans ton arbitrage, c'est un petit peu pas très bien, pas très gentil ce que je dis, mais tu sais, si tu avais quelque chose
Ah oui.
à améliorer, ce serait quoi, selon toi?
Alors moi, cette question ne me dérange pas parce que il ne faut pas gêner. Au contraire, comme je le disais, j'aime bien apprendre,
Ok.
j'aime bien m'améliorer. Et c'est vrai que je pense souvent à ce que je pourrais améliorer dans mes lacunes ou mes faiblesses, parce qu'on en a tous.
Bien sûr.
Il y a des choses qui ont évolué, comme je disais aussi tout à l'heure, dans l'arbitrage, dans l'application des règles. C'est notamment la continuité du jeu. Et la continuité du jeu, c'est quelque chose qui est des fois difficile à se rendre compte quand on est sur le terrain. Parce que le temps ne s'écoule pas à la même vitesse quand on est sur une chaise, en face d'un match. Dans les gradins, et puis sur la chaise d'arbitre, en train de compter les points et d'essayer de tenir son match. Le temps ne s'écoule pas à la même vitesse. Donc, arriver à savoir à quel moment on doit demander à un joueur d'accélérer le mouvement, de revenir servir plus rapidement, de se mettre en place, etc. D'arrêter de perdre du temps, c'est
Ouais.
pas évident. C'est pas évident. Parce que ça peut se dégrader insidieusement, d'une demi-seconde à progressivement. Un joueur qui est de plus en plus fatigué, forcément, s'il a besoin de temps, il va progressivement perdre un peu plus de temps à chaque échange, entre chaque échange. Et puis on peut se faire avoir, quoi. On pourrait se faire avoir. Donc il faut arriver à ressentir le match et donc c'est pas dans tous les matchs qu'on arrive à être au top là-dessus, en tout cas pour ma part. Donc arriver à juger le bon moment, anticiper comme on nous dit souvent. Anticiper le plus possible sur une dégradation éventuelle d'un match, de façon à éviter la catastrophe, hein, parce qu'à la fin, il peut y avoir une catastrophe sur le terrain, ça peut dégénérer.
Bon.
Un conflit, un carton, tout ça, on doit pouvoir l'éviter, donc il faut arriver à pousser les joueurs pour qu'ils ressentent. La pression de l'arbitre aussi, d'une certaine façon, et la pression du règlement, pour rester dans les clous, quoi, tout simplement.
Mais je
Eux
retiens ce que
aussi.
tu disais par rapport au temps qui s'écoule effectivement d'une manière différente. Moi, souvent, à la fin d'un match, si tu me disais ton match, il a duré combien de temps? J'ai aucune espèce d'idée.
Oui, c'est
Je pourrais
difficile
dire 15
de
minutes
savoir.
comme 40, et je suis, bah,
Ouais.
15 minutes peut-être pas, mais je pourrais me tromper du simple au double. Parce que bah, t'es dedans, puis t'es pas là pour calculer le temps,
Bien
t'es là.
sûr.
Et effectivement, effectivement,
Mais
ouais.
au niveau local, quand tu as des petits matchs de poule, etc., tu peux avoir un match de 15 minutes.
Ouais.
Mais un match de 30 minutes, c'est déjà relativement long.
Ouais.
Et puis, ben, quand tu as 45 minutes ou 1 heure, là, évidemment, tu vas te rendre compte, forcément, que le match a été super long. Mais n'empêche que c'est difficile de se rendre
Ouais.
compte combien de temps le match a duré. À moins évidemment, de le noter
De
évidemment, on le note sur
chronométrer,
notre feuille.
puis
Pour le chronomètre, on met forcément l'heure de début et l'heure de fin de match, et c'est à ce moment-là qu'on peut se rendre compte que finalement le temps ne s'est pas écoulé
c'est ça.
comme on l'a pensé, quoi.
C'est quoi tes relations avec les arbitres en chef, puis les autres officiels? Est-ce que toi, c'est plus c'est des relations de confiance, j'imagine? Ou alors des fois, selon les arbitres en chef, ça peut être source de stress. Parce que bon, bah tu connais, bah je pense pas qu'il y ait de stress entre deux arbitres de partie, mais des fois peut-être entre un arbitre de partie puis un arbitre en chef, un juge arbitre que tu connais, puis tu sais que ça va être compliqué, ça va être compliqué cette affaire. Est-ce que ça, t'as déjà vécu ça, t'as déjà
Oui, j'ai déjà vécu ça. Des arbitres en chef qui sont relativement distants ou qui sont des fois assez faux, ça peut arriver, qui est un peu fourbe,
Oh,
ça peut arriver. C'est pas
ok.
souvent, c'est pas souvent. Mais oui, je l'ai déjà vécu. Mais d'une façon générale, avec un peu d'expérience, on les connaît. Et puis, on est toujours au sein des arbitres un groupe soudé et on se transmet ces informations et on sait quoi faire pour
Pour
éviter
passer le message.
passer le message, pour éviter le conflit éventuel avec. Voilà, pour aller dans son sens, écoutez bien les conseils qu'il donne à chaque briefing pour éviter qu'on soit pris en grippe parce qu'il y a des juges arbitres, hein, les arbitres en chef, une fois qu'ils sont pris en grippe, évidemment, on n'a pas envie d'avoir des réflexions, etc. Et puis, si on a envie d'arbitrer un peu plus loin dans le tournoi, de pas être mis à l'écart comme ça a pu arriver, ça peut arriver, hein. On le sait, de pas avoir de demi-finale. À un certain niveau, évidemment, avoir une finale, c'est souvent donné au BWF, aux arbitres qui sont là, sauf quand il n'y en a pas assez. À ce moment-là, on fait appel aux arbitres moins d'un niveau plus modeste. D'un niveau continental quand même, hein, mais bon, plus modeste. Et puis, l'arbitrage en demi-finale, c'est souvent. Quand on est écarté, c'est que voilà,
Il y a eu un léger différent.
il y a eu un léger différend à un moment donné.
Puis on dit souvent celui qui a la
Changer de
finale,
feeling.
c'est un petit peu la récompense, quelque part.
Oui, alors évidemment, c'est une récompense, c'est quelqu'un qui a eu des bonnes sensations d'une façon générale pendant le tournoi. C'est une sorte de récompense, en quelque sorte, hein, évidemment. Donc on est toujours très très fier d'avoir été emmené jusqu'en finale, surtout sur les gros tournois. Sur les tournois plus modestes, c'est très régulier, hein, mais sur les gros tournois, quand il y avait des super séries. C'était extrêmement rare, hein. Et quand ça arrive, ben, ça procure finalement une certaine fierté. On est
Ah ouais, ah ouais.
on est content de sa semaine du coup parce qu'on se dit qu'on a réussi quelque chose. On a eu des bonnes sensations. On a fait un bon parcours quoi, comme un sportif qui
C'est
est
ça,
arrivé en
ouais.
finale. Ouais.
Oh ouais, tout à fait. On a montré qu'on était capable et
Mmh.
que. Ok,
Et du coup,
ok.
quand on nous installe le micro, des fois c'est qu'en finale hein, qu'on a le micro, là, l'oreillette, le micro accroché comme tu l'as, c'est des sensations qui sont un peu uniques, quoi. On est sur son petit nuage,
Ah
c'est
ouais, tout à
normal.
fait. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui veut se lancer dans l'arbitrage? Alors, c'est une question un petit peu générale là, mais selon toi, c'est quoi les qualités ou qu'une personne doit avoir en partant? Parce il y a un travail qui va se faire tout au long de la carrière d'arbitre, mais au début, pour débuter, selon toi, ça prend quoi comme qualité ou comme
Alors, il faut pas abandonner. Déjà, il faut être tenace. La ténacité, c'est quelque chose d'indispensable. Et puis, il faut évidemment rentrer dans son rôle. Il faut avoir envie de rentrer dans son rôle de policier, en quelque sorte, hein, d'arbitre impartial. Il faut avoir l'envie de sanctionner quand c'est nécessaire. Il faut pas avoir peur des choses. Donc, évidemment, faut avoir du cran, quoi. Il y a un certain nombre de choses, comme tu disais, qui peuvent s'acquérir avec l'expérience, mais il y a des choses sur lesquelles il faut tenir depuis le début, quoi. Hein. Ouais. Il faut avoir envie d'apprendre, évidemment.
C'est ça.
Il y a des J'ai fait une formation récemment d'arbitre, hein, où j'avais sept arbitres avec moi, et sans citer son nom bien sûr, on a parmi les candidats une prof, un professeur de collège, de lycée. C'est des gens qui enseignent, mais qui n'ont pas forcément le réflexe d'apprendre. C'est paradoxal. C'est
Ouais.
paradoxal. En tout cas, cette personne-là. Et donc, j'ai beaucoup de mal à débriefer. On peut avoir beaucoup de mal à débriefer avec des personnes comme ça parce que elles ont l'impression d'avoir bien fait, évidemment, quelquefois, hein, toujours
Ouais.
bien fait, à expliquer ce qu'elles ont fait, mais à pas écouter pour essayer de progresser et d'accepter la demande d'amélioration, quoi. C'est pas toujours
Ah
évident, c'est pas toujours évident. Donc cette expérience-là, je l'ai connue avec d'autres personnes. Et personnellement, j'écoute beaucoup quand on me donne des conseils, mais c'est pas toujours évident, hein, c'est pas toujours évident. C'est pas forcément donné à tout le monde quand on a un certain âge d'écouter et d'accepter le conseil, la critique, le conseil.
pour des profs, d'avoir un prof qui va leur dire que, ben regarde, t'aurais, tu sais, peut-être que si tu faisais comme ça, peut-être, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, t'es qui toi?
Non, mais bon, c'est souvent plus subtil, mais c'est inconscient. Et le
Ouais.
problème, c'est inconscient. En l'occurrence, c'est inconscient. Et elle se rend pas compte que c'est des conseils qu'il va falloir suivre, quoi. C'est des conseils qu'il faut suivre parce que si on ne les suit pas, on s'améliore pas, quoi.
C'est ça.
C'est
Moi, ce que je dis souvent à mes stagiaires aussi, tu sais, je leur dis, n'ayez pas peur de vous tromper.
Oui.
Vous débutez, vous allez faire des erreurs, acceptez-le. Parce que j'en avais certains, ils me disaient, enfin, faire une erreur, mon Dieu, faire une erreur, oh là là, je peux pas faire. Du coup, ils s'empêtraient dans un système où de toute façon ils se trompaient, parce que c'est comme ça, parce qu'on se trompe. Tu sais, comme tu le dis, toi, malgré 1000 matchs, ben, tu peux te tromper.
Ça arrive.
Eh oui,
ça
eh
arrive.
oui,
Ça arrive
eh
de temps
oui.
en temps, et oui.
Donc je leur dis surtout, allez-y en vous disant, vous allez faire des erreurs. Je fais des erreurs, tout le monde fait des erreurs, vous allez faire des erreurs. Acceptez-les. Vivez avec. Par contre, si vous faites la même erreur 15 fois d'affilée, là, effectivement, on va rentrer dans un autre processus. Mais de faire une erreur, regarde, vous allez vous tromper, puis la fois d'après, vous n'allez plus la faire. Vous allez peut-être en faire une autre. Mais celle-là, vous n'allez plus la faire. Puis on regardera l'autre erreur qui a été faite. Alors le but, c'est pas non plus de faire que des erreurs. C'est pas le jeu des sept erreurs.
Bien sûr.
Mais surtout, vraiment, n'ayez pas peur parce que vous allez en faire. Mm-hmm. Et puis les joueurs vont être compréhensifs avec vous parce qu'on fait partie de la même équipe. Il y aurait pas de tournoi sans arbitre. Il y aurait pas de tournoi sans joueur. Donc du coup, ben on va vivre ensemble. Puis on va faire en sorte que ben, le joueur peut faire des erreurs, on va le rappeler à l'ordre. Vous pouvez faire des erreurs, on va vous corriger. Parce que moi, je pense aussi que c'est important, ça. C'est d'admettre que, ben oui, on va se tromper.
On va se tromper, exactement. Le tout, c'est de se tromper le moins fréquemment possible. Mais évidemment, quand on rentre dans un processus de formation et qu'on a fait une partie théorique et que. De petits détails, des dizaines de choses à penser en même temps.
Oh.
Lorsqu'on est en situation sur le bord du terrain pour arbitrer, ça vient pas tout instinctivement. Toutes les routines se sont pas mises en marche, etc. C'est comme quand on apprend à conduire, hein, voilà.
Ouais. La plupart, nous, sont des joueurs, donc bon, ils ont quand même
oui,
une.
Oui, c'est ça. Ouais.
Ils ont quand même une.
C'est un standard aussi chez nous, c'est que forcément, les arbitres sont pris parmi les joueurs.
C'est ça.
Souvent des joueurs qui sont encore en compétition, qui font encore des compétitions. C'est rarement des joueurs loisirs qui se mettent à l'arbitrage. C'est jamais d'ailleurs des joueurs loisirs, c'est des joueurs forcément qu'on retrouve pendant les compétitions et qui sont amenés à faire de l'arbitrage régulièrement d'une façon informelle sur le bord du terrain. Parce que le système ici, c'est que quand on est en compétition, c'est le perdant du match précédent qui va arbitrer le match suivant, le match appelé suivant. C'est un bien et un mal. Le bien, évidemment, c'est que tout le monde s'est arbitré. Mal, mais au moins, on sait gérer un match, à peu près, compter les points, etc. Et puis, ça libère les joueurs de cette contrainte. Et puis, un mal, parce que, évidemment, l'arbitrage est souvent vécu par les jeunes, en tout cas, comme une sanction.
Ouais.
On a perdu son match, donc on arbitre. Donc, ce job est vécu comme une sanction et c'est difficile de faire venir les joueurs jeunes à l'arbitrage de ce fait. D'abord parce qu'ils sont très enclins à la compétition, donc ils n'ont pas envie de se concentrer sur autre chose que leur entraînement, mais aussi parce que c'est vécu comme ça et il faut attendre des personnes plus mûres pour avoir des inscriptions aux formations d'une façon générale.
Ouais, c'est ça.
Mmh. C'est assez rare d'avoir des jeunes. Des jeunes adultes, hein, genre entre 20 et 25 ans, quoi.
Ouais,
les adolescents ou des mineurs, on en a jamais, hein. On n'a pas de formation jeune.
Ouais.
C'est impossible d'en trouver, hein, parce que là, franchement, les jeunes à l'adolescence vivent l'arbitrage assez mal, donc forcément, c'est.
Bah, l'arbitrage, c'est contre eux, c'est pour les sanctionner parce qu'ils font pas bien, alors que c'est pas ça. Mais bon, On a tous été jeunes, puis
Ouais. Et puis ils
faut
sont bien
attendre qu'ils.
contents en plus d'avoir un arbitre sur
Ah
leur
oui.
terrain quand ils sont en match, parce qu'au moins ils peuvent se concentrer sur leur jeu, hein.
Comme tu dis, c'est ça, ils ont plus à s'occuper de ça.
Et
Ils
ouais.
peuvent se concentrer sur leur match. Voilà une petite question. C'est pas, c'est d'ordre privé, donc tu réponds pas si tu veux pas, c'est pas. Mais comment arrives-tu à concilier l'arbitrage au badminton, évidemment au badminton, avec ta vie de famille?
Ben, c'est pas facile
C'est pas facile, hein?
parce que, comme je te disais, le rythme d'arbitrage était assez soutenu au niveau international. J'ai pris pendant pas mal d'années tous mes congés en déplacement, à prendre des avions, à partir loin de ma famille. J'ai eu un boulot aussi ici en tant que mineur. Qui m'a obligé certaines années à m'éloigner durant la semaine pour aller sur des centres miniers. Donc, en plus, je partais pendant mes congés pour arbitrer à l'autre bout de la terre. C'était pas forcément une très bonne solution familiale. Donc, de temps en temps, mon épouse m'a suivi en arbitrage. À faire des fois autre chose hein, pendant la semaine, mais au moins on partait ensemble et on se retrouvait
C'est ça.
après les matchs. Ouais. Il faut se ménager des moments, c'est pas toujours facile. Et puis voilà quoi. Donc
Ouais, c'est une
c'est vrai que c'est pas
conciliation,
simple.
c'est une conciliation avec la famille, puis comme tu dis, de venir avec. Ça lui permet de voir du pays.
Ouais.
C'est OK. Est-ce que ton éloignement géographique, selon toi, a freiné, le terme est pas, a-t-il constitué un obstacle pour ta carrière? Est-ce que t'aurais aimé évoluer plus? Je sais pas. Le
Alors
fait d'être loin?
évidemment, on est dans une situation ici en Nouvelle-Calédonie assez isolée. Hein. C'est au départ pas très simple. Donc si on ne bénéficie pas d'aide pour démarrer, pour mettre le pied à l'étrier ou le doigt dans l'engrenage, c'est pas évident du tout. Si on n'a pas un peu de trésorerie pour payer des billets régulièrement et assouvir sa passion, c'est pas possible hein, tout simplement. Oui, l'obstacle est assez majeur. Jusqu'en 2017 le seul arbitre international de Nouvelle-Calédonie et
Ah ouais.
pas pour rien. J'ai un copain du club qui s'est lancé dedans, puis un autre, donc on est maintenant trois, mais le troisième plus récemment, donc du coup il a passé beaucoup de tournois. Mais n'empêche que c'est un obstacle majeur, oui, bien sûr. Aller en Australie ou en Nouvelle-Zélande, c'est déjà $500 US,
OK.
donc c'est. Oui. On a un monopole au niveau de notre compagnie aérienne, donc les tarifs sont ce qu'ils sont. Voilà, et c'est 4 fois plus cher pour aller en Europe, donc
Ah, c'est ça.
c'est énorme, c'est énorme.
Ouais,
Donc
les arbitres France,
ouais, on est content
les arbitres
quand on
européens, ils
a,
peuvent.
ouais, on est content quand on a une aide et puis on en profite. Mais c'est sûr que c'est pas tous les jours très simple d'arriver à concilier ça, quoi.
Ouais, ça prend la passion, ça prend le temps, ça prend l'argent. Mais je te dirais que l'Amérique du Nord, parce que les États-Unis, c'est pas, enfin, je veux dire, c'est le badminton, c'est pas un sport reconnu non plus aux États-Unis. Il y a peu de joueurs, ben c'est pas le sport nord-américain. Tu sais, ça passe vraiment après une flopée de sports, le badminton, même aux États-Unis. Donc ici, pour évoluer, ben c'est ça, faut aller en Europe, faut aller en Asie. Puis c'est ça. Amérique du Sud, oublie ça. Enfin, quand je dis oublie ça, c'est pas. Je veux dire, il y a peu de compétitions, c'est pas des gros niveaux. Bon, tu vas être Paname, tu vas être Paname parce que, ben oui, c'est la zone panaméricaine, donc tu vas être arbitre Paname. Puis il y a des très bons arbitres Paname, mais c'est quand même pas l'arbitrage international. En termes de niveau de jeu, l'Amérique du Nord, c'est un petit peu compliqué. Mais bon, on a tous nos problèmes. Je suppose que tu es au courant, mais la Fédération internationale a mis en place un statut d'arbitre semi-professionnel.
Oui.
Est-ce que ça, c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser? Puis, je te demande pas de scoop, là, mais on sait que Fabio, je pense, c'est ce qu'il est maintenant. Yves me disait
Oui,
que
là,
Fabio est
je crois
semi-professionnel.
que ce statut doit pouvoir être réservé aux arbitres des WWF,
Ah, ok.
donc d'un niveau au-dessus du
Au-dessus
mien,
du
et
tien,
du
ouais.
coup, ouais. Du coup, ça doit être des propositions qu'ils doivent recevoir, mais qui ne même si elle m'était proposée à un niveau plus modeste, donc continental, je pense que je me lancerai pas là-dedans parce que j'ai donné 10 ans et
Ouais.
je pense que il faut savoir, disons, j'ai un boulot très prenant, hein, donc je suis à 100% pour mon job ici en Nouvelle-Calédonie. Je travaille dans une société minière et j'ai besoin d'avoir 100% de mon
C'est ça.
temps hors de mes congés pour mon job. Je pense que j'aurais du mal à concilier les deux. Ça pourrait être difficile. Autant pendant 10 ans, j'ai consacré un peu de beaucoup de mon temps et de mes congés pour mes voyages et l'arbitrage. Autant là, me lancer dans un l'arbitrage semi-professionnel, ce serait plus compliqué, oui.
Ouais. Bah, comme tu dis, ton travail te prend tout ton temps, donc ce serait compliqué. On arrive aux deux dernières petites questions. Dans l'application de certains règlements, penses-tu qu'il serait utile d'apporter des améliorations, des nuances, des adoucissements ou des durcissements? Selon toi, est-ce que y a des règlements qui se mériteraient peut-être revus ou juste un avis comme ça, est-ce que selon toi, t'as pas de...
Non, je pense pas. On a tous à un certain niveau, une fois qu'on est dans le job, on a tous les règles en tête, toutes les règles, et elles ont tout un sens. Qu'on puisse les améliorer parce que c'est difficile de les appliquer, c'est une chose. Mais aujourd'hui, les règles, à part des choses un petit peu imperceptibles comme le temps qui passe, comme je disais tout à l'heure,
C'est ça.
à moins de mettre un chrono et de démarrer un chrono à chaque fois que le volant tombe par terre, entre ce moment-là et le moment où il va être servi, ensuite, je vois pas comment on peut modifier encore des choses. Peut-être que j'ai pas assez d'expérience
Non.
et ou pas assez d'imagination,
Non, mais
mais
tu sais, des fois, c'est ça, quoi.
pour moi les règles d'aujourd'hui elles ont
Elles ont un
toutes ces
sens.
finesses, hein, toutes ces règles ont un sens et à partir du moment où elles ont un sens et qu'on peut les appliquer, il n'y a pas de problème, ça doit être fait, quoi. Ouais.
Ouais, surtout que les règles évoluent un petit peu pour justement rendre le jeu plus attractif
Oui.
pour la télé. Parce qu'on change les systèmes de pointage. Enfin, les
Oui.
systèmes de pointage ont été changés. Est-ce que bah, tu avais dû entendre parler, tu sais, du changement de système de pointage qui n'a pas
Oui,
été
alors,
fait, manifestement?
il n'a pas été fait, mais il y a eu des rythmes, donc avec 11 points par set,
Ouais, c'est ça.
etc. Qui ont été testés pendant quelque temps, plus d'un an, je sais plus, peut-être 2 ans, que j'ai jamais expérimenté personnellement
Ok.
parce que je suis jamais tombé dans une période sur un tournoi qui l'appliquait. et qui le testaient, mais finalement, ces choses-là n'ont pas été retenues, mais il y a toujours des gens qui se creusent la tête pour rendre effectivement le sport plus attractif au niveau visuel essentiellement, que ce soit dans le rythme comme ça, le rythme des sets, qui influe évidemment sur le rythme du jeu, du match, ou alors sur l'application des règles de continuité dans le jeu, ou de présentation d'une façon générale, comme le geste du joueur qui s'essuie le front et qui jette sa sueur,
Ah, ouais.
qui était considéré comme quelque chose de pas très beau à la télé, relativement irrespectueux dans certaines
Région du monde?
régions du monde,
Ouais, ça,
exactement.
non.
Donc, on évite tout ça, voilà.
Ouais. Et comment, bon, bah, t'as progressé dans l'arbitrage dans les 10 dernières années. Alors la question est posée comme ça, mais je sais pas si. Comment évalues-tu le niveau d'arbitrage des officiels dans le passé et au moment présent? Selon toi, quelles ont été les principales améliorations des arbitres dans les 10 dernières années? Là, c'est qu'est-ce que l'arbitre a dû apprendre avec l'évolution du jeu, la rapidité du jeu?
Alors c'est tout un ensemble de choses qui, en rapport avec ce qu'on disait précédemment, c'est qu'on la BWF notamment, son intuition évidemment, on a eu de nombreuses réunions au cours des tournois, des petits stages, des petits workshops. Pour travailler sur l'amélioration de l'application des règles, de nos sensations, d'avoir des meilleures sensations pendant nos matchs, des meilleures applications, et puis cette volonté qu'a eue depuis notamment à peu près 7 ou 8 ans maintenant, la fédération de rendre le sport plus attractif, hein, puisque ça a commencé en 2013. Cette volonté-là, elle a permis de faire monter, en quelque sorte, mécaniquement, le niveau des nouveaux arbitres. Le niveau des nouveaux arbitres, évidemment, a progressé. Sous cette impulsion-là, mais paradoxalement, ce que j'ai observé, hein, c'est que il y a des anciens qui ont eu du mal à suivre, parce que soit ils n'avaient pas la volonté, soit pas l'envie, hein, et soit qu'ils étaient trop dans leur routine pour accumuler depuis des dizaines d'années. Et que c'était difficile d'en sortir. Le passage, l'anticipation, l'accélération du match, le changement, ne serait-ce qu'un truc bête, le changement de l'utilisation du chrono, hein, ça a été difficile, hein, pour certains de se mettre à la montre. Les routines avant de monter sur la chaise, c'est plein de
Ouais.
petites choses que tu peux observer chez des arbitres plus anciens et qui ont mis du temps visiblement à se mettre dans le ton, alors que voilà, les arbitres plus jeunes ou plus enclins au changement, ben c'est
C'est ça,
plus vite quoi.
ils s'adaptent
Du
beaucoup
coup,
plus
voilà,
facilement.
la capacité d'adaptation est dedans. Ça a paradoxalement donné des tournois avec des niveaux d'arbitrage des fois inégaux et pas forcément là où on pourrait s'y attendre. À des consignes d'un juge arbitre, d'un arbitre en chef, qui ne sont pas appliquées par les arbitres les plus expérimentés, c'est quand même paradoxal.
Ah ouais, mais c'est ça, ils
Et...
vont te dire que ça fait 20 ans qu'ils arbitrent comme ça.
Ah
Pourquoi ça
ouais.
changerait?
Pourquoi ça
Parce qu'ils sont
changerait?
réfractaires au changement, tout simplement. Donc,
Mais bon, ça peut arriver, hein. Bon,
oh.
maintenant, ça, évidemment, ça se voit de moins en moins au fil du temps, parce que évidemment, soit tu changes, soit tu n'es plus invité, en gros.
Ah, c'est ça. On fait plus appel à toi. Si tu comprends pas le
Oui.
message, là, bon. Regarde.
Deux fois, oui, bien sûr.
Mais je pense, tu sais, certains arbitres, puis je me mets dedans, hein, mais on a arbitré, donc avant 2006, on arbitrait, tu sais, avec les matchs en 15 points, puis fallait avoir le service pour mettre un point, donc c'était long. On était dans une. L'arbitrage était beaucoup moins dynamique. C'est 10-2 premier service, 10-2 deuxième service, service perdu 2-10, parce que tu sais, ça pouvait être super long, donc on était
Aller
dans
gagner
un
le service, etc. Ouais.
tu sais, t'étais dans une rythmique où ça pouvait ne pas évoluer, le jeu ne pouvait ne pas évoluer, le pointage n'évoluait pas, donc tu sais, l'arbitrage était un petit peu latent. C'est bah ouais, ok. Alors, 10-2, service perdu, 10-2, second service, service perdu, 2-10, service perdu, 2-10, second service. C'était, là maintenant, c'est beaucoup plus dynamique, ça évolue tout le temps, donc voilà, ben l'arbitre, c'est du coup, oh zut, là maintenant, faut que je sois présent, là. Il fallait qu'il soit présent avant, mais quand ça bougeait pas, ben, on était, c'est ça, la rythmique était beaucoup plus latente. Alors que là maintenant, mais au Canada c'était la même chose. Il y avait d'anciens officiels qui étaient des bons officiels, mais qui n'ont pas eu la volonté, on va dire ça comme ça, d'évoluer. Ils se sont dit, regarde, c'est trop rapide là. J'ai jamais connu ça, moi. C'est plus pour moi, ça. C'est pour les jeunes. Ce qui fait qu'on s'est retrouvé avec plus d'arbitres parce que bah c'était toujours les mêmes qui allaient aux compétitions. Parce que ben, ils connaissaient l'arbitre en chef, puis parce que c'était toujours les mêmes qui étaient invités. Puis le petit jeune là, wow, petit jeune là, regarde, ça fait 25 ans que je suis là, ok, c'est pas toi qui vas prendre ma place là. Et on s'est retrouvé un petit peu dans ce cas-là, tu sais, où ben plus beaucoup d'officiels. Donc là, on est en train de reconstruire un petit peu, au Québec en particulier, au Canada en général, à former des officiels plus jeunes. C'est notre gros travail aujourd'hui. Puis au Québec, c'est ça, on forme des jeunes, puis on a des jeunes motivés, donc on est confiant là. Mais on a des anciens, on a encore des anciens au Canada. Puis on attend la retraite. Mais non, bah
Retraite
c'est ça.
parce qu'on a
Écoute.
envie d'avoir des mentors, des gens qui sont là pour te donner les conseils avisés et de former la relève, la jeunesse. Tout ça, c'est un processus mental complètement différent. Et nous, on est plutôt là-dedans ici parce que évidemment, on est peu à avoir pu accumuler un certain niveau d'expérience. Donc on compte sur nous pour former tout un tas de plus jeunes arbitres, hein. Et on est bien content de pouvoir avoir créer cette continuité dans les niveaux d'arbitrage, hein. Donner envie d'arbitrer à tous ceux qu'on forme pour qu'ils continuent, parce que on en forme beaucoup. Par rapport au nombre de licenciés, évidemment, c'est beaucoup, mais par rapport à un nombre absolu, c'est très peu. On doit avoir une vingtaine d'arbitres, hein, simplement en Nouvelle-Calédonie, qui ont suivi des formations. Mais il y en a très peu qui officient régulièrement et qui vont, et encore moins qui vont directement sur un tournoi pour arbitrer. Ils y vont parce qu'ils sont joueurs. et qui sont inscrits à la compétition.
C'est
Et
ça.
ils ont l'opportunité de faire des matchs ou on leur demande évidemment pour les phases finales d'arbitrer. On est bien dans cette dynamique-là maintenant, d'essayer d'avoir des phases finales qui soient arbitrées par des officiels, des arbitres officiels, et on est bien content de les avoir. On est bien content de les avoir tous.
Ouais, nous
Donc
c'est
ça fait
pareil,
des matchs.
on a deux circuits. On a un circuit ABC, ce qu'on appelle le circuit senior, et puis on a un circuit junior. On a 8 compétitions et un championnat provincial qui s'étale sur l'année entre septembre et avril. Passé avril, là, les gens ont passé 6 mois d'hiver, j'exagère, mais 4 mois d'hiver, puis à partir d'avril-mai, là, on va dehors. Donc il y a quasi aucune compétition de badminton à partir du mois de mai. Mai, juin, juillet, août, c'est 4 mois là, pas de badminton. Les gens vont dehors, ils vont courir, ils vont faire ce que tu veux, mais s'enfermer dans un gymnase là.
Ah, c'est pas ça. Non, non, c'est fini. Ouais, on peut plus tenir.
Non, c'est un. Moi, plusieurs fois, parce que ben, je suis arrivé avec ma mentalité de Français en disant, tu sais, pourquoi on fait pas des compétitions plus tard dans l'année, puis là. Je me suis pris une volée de bois vert, Christian, là, mois d'avril, là, les jeunes, ils vont dehors, ils veulent pas s'enfermer dans un gymnase. Ok. Je suis reparti avec ma mentalité de Français, là, je dis, ok, je comprends ça, je comprends ça. Ok, ben écoute, Jean-Philippe, j'ai trouvé ça super intéressant d'avoir partagé avec toi ton expérience.
On était parti sur une demi-heure et ça fait 2 heures qu'on parle.
Ouais, une grosseur. Bah, c'est ta faute. Voilà, faut que ce soit de la faute de quelqu'un, ça peut pas être de la mienne.
Pardon.
Non, mais en même temps, tu sais, on partage. J'espère que bah, je te fais rien manquer. Mais tu
Non,
m'as
pas
dit que
du
tu
tout,
avais
au
ta
contraire.
journée.
Je suis tellement content de pouvoir échanger sur cette passion que je
Ouais.
l'ai fait avec plaisir. N'hésite
Ouais,
pas
bah
à
là,
revenir quand je viens.
on va partager ça avec nos officiels. J'ai vraiment apprécié. J'ai vraiment apprécié ton expérience, ta motivation. Puis moi, je te dis chapeau parce que 1 000 matchs internationaux là, chapeau. Tu dois être parmi les ben, je sais pas. Enfin, non, il y en a certainement qui en ont arbitré plus. Là, je sais pas, mais
Ah, bien
tu dois
sûr,
quand même
bien
parce que
sûr.
1 000, c'est comme tu disais, on va dire à 25 matchs par tournoi à peu près.
Oui, peut-être des fois moins, hein, parce
Des fois
que des
moins,
fois ça fait qu'une quinzaine, oui.
on va dire, tu sais, même si on
Mais,
part sur, bah c'est ça, ça fait
en 10 ans, ça fait 100 matchs par an et
c'est
divisé
ça,
par 4 tournois, ça fait 25, hein, donc
c'est
ça
ça.
fait. Ouais.
Ah
En
non,
fait, j'en ai
vraiment.
fait plus que 4, donc c'est souvent de l'ordre d'une vingtaine de matchs par tournoi. Voilà,
Ouais,
on y est.
c'est ça.
Finalement, c'est pas surprenant.
Et t'as eu l'occasion de rencontrer Yves sur des compétitions en Asie, j'imagine, ou...
Oui, je ne saurais plus situer exactement où, mais effectivement, je me suis pas amusé à ressortir
Ouais, non, non.
mes rapports d'arbitrage qu'on envoie régulièrement à la Fédé. Mais effectivement, c'était des compétitions en Asie, oui, Yves, forcément. Peut-être en Australie aussi,
Ouais,
mais je sais plus. Voilà.
Avec badminton photo, il est quand même souvent. Moi, je sais qu'il est souvent en Asie. Ça, il aime l'Asie. Parce qu'en Europe, ben, ça, badminton photo, ils ont leur propre contingent de photographes en Europe. Donc, ben, il n'y va pas. Parce que c'est pas... Mais effectivement, il a dû. Je sais qu'il va aussi au Danemark. Il est souvent invité là-bas. Parce qu'il
Je n'ai jamais
connaît.
allé, mais ouais.
Il
Ouais,
connaît.
mais c'est souvent sur les compétitions en Asie que je l'ai rencontré, donc quasiment, voilà. Edwin et Yves, etc. Enfin, des photographes, on les connaît vite parce que, bah, surtout ceux qui parlent français, évidemment,
Ah
a
oui.
fortiori. Mais n'empêche que les photographes des tournois, des photographes officiels, on les rencontre très très vite et on a souvent des très bons des affinités, hein, enfin saisissent des moments magiques durant nos matchs, donc on est bien content de les avoir.
Ouais. Ok, bah écoute, Merci beaucoup, Jean-Philippe. J'espère qu'on va rester en contact. En tout cas, moi, ça me ferait plaisir.
Moi aussi. Merci beaucoup à
C'est.
toi
Et
de cette
puis,
opportunité.
ouais, bah regarde, les arbitres québécois bah, vont apprendre à te connaître. Il va y avoir un tournoi international vraisemblablement en 2022. Sait-on jamais, si tu veux venir au Canada. Ça aura lieu à Montréal. Alors après, ça va être un tournoi troisième niveau, là. Je me rappelle plus trop les
Oui, c'est
grades, là.
les... Ouais.
Ce serait le troisième. Mais je sais pas si c'est la Fédération internationale qui assigne les officiels pour ce type de compétition, si c'est pas Badminton Canada. Mais à l'occasion, regarde, on
Dépend
pourrait être
du
un.
niveau de, ouais, du tournoi. Ouais.
Ouais, bah,
Souvent, c'est souvent quand c'est pas des tournois du type entraînement Super Series, c'est l'organisateur qui choisit les officiers. Ouais.
Ok.
Donc il peut
Non, mais comme
envoyer
au Canada.
des invitations à badminton océanien. Hein. J'ai souvent été invité par l'intermédiaire de badminton océania qui diffuse autour de moi les invitations. Donc,
Parce que nous, la volonté, comme le tournoi va avoir lieu à Montréal, la volonté, c'est d'avoir des arbitres bilingues. Parce que, bah, c'est parce que, bah, c'est ça. Le Québec, c'est bilingue. Donc,
C'est
la
facile de
volonté,
gérer un match, ouais, exactement, ouais, bien sûr.
c'est ça. C'est de, donc, on fera vraisemblablement, bah, appel à Badminton Oceania qui te relaiera l'invitation. Et si tu es disponible, écoute, ça nous ferait super plaisir. Mais c'est en 2022, donc d'ici là, j'espère qu'on va, comme je te disais, qu'on va rester en communication à
Avec
l'occasion.
plaisir.
Et puis, encore merci, je vais te laisser. Est-ce que tu veux dire le petit mot de la fin? Tout le Québec t'écoute. Attention.
Ben écoute, bon courage à tous les Québécois et en particulier aux arbitres et aux joueurs de badminton. Je suis bien je suis bien heureux dans mon petit sur ma petite île du Pacifique à pouvoir regarder les joueurs et avoir une vie à peu près normale. Vraiment,
Je vais
j'apprécie
couper
d'autant plus.
l'enregistrement.
Ouais.
Bon, ben, bah,
Et
écoute, merci beaucoup.
je pense à vous aussi.
Ok, je vais couper l'enregistrement, comme ça, regarde, ce sera fait. Et puis, ben, c'est ça.